18h, 19h. C'est vous qui le dites, présenté par la rédaction de Radio U.
Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes le lundi 18 janvier et vous écoutez C'est vous qui le dites, la quotidienne d'info locale et citoyenne de Radio U sur le 101.1 FM. Même si ces derniers temps, les événements culturels ne sont pas vraiment possibles, rien n'empêche d'y réfléchir et de faire en sorte que ceux-ci, quels qu'ils soient, du concert à la pièce de théâtre, en passant par une exposition photo, soient accessibles à tous. À tous, cela veut dire à tous les âges, tous les genres, tous les milieux sociaux, bien sûr, mais aussi et surtout aux personnes handicapées, au même titre que personnes dites valides. Cette réflexion sur l'accès aux événements culturels des personnes handicapées est menée depuis de longues années par la ville de Brest, mais aussi par des collectifs et associations de personnes handicapées. Réflexion qui a mené à la création d'une handibox, sorte de boîte contenant du matériel pour des personnes handicapées, qui, dans l'idéal, serait présente à chaque événement culturel. La handibox, qui date de 2019, a reçu en fin d'année 2020 le prix Coup de cœur des prix territoriaux La Gazette GMF, l'occasion pour nous de revenir sur le processus de création. Pour en parler, on accueille d'abord Véronique Abalea, qui a participé au développement et à la création de cette handibox. Bonjour Véronique Abalea.
Bonjour Marie Brunner.
Donc on est là pour parler de la handibox. Je voulais d'abord commencer par parler de la genèse du projet. Et donc ce projet de handibox, il découle d'un atelier qui s'intitule « Accès à la culture des personnes en situation de handicap ». Et je me demandais quelle est l'origine de cet atelier et quel était son but.
Alors, cet atelier, c'est l'émanation d'un réseau qui s'appelle La Culture Partageons-la, qui existe sur le territoire brestois depuis 2012 et qui réunit des acteurs du territoire qui s'intéressent spécifiquement à l'accès à la culture. Donc, bien sûr, un jour est venu dans la réflexion l'accès à la culture des personnes en situation de handicap, l'accessibilité. Et voilà, quelques personnes de ce réseau ont décidé de travailler dessus. Alors, essentiellement des personnes issues de la culture, et ces personnes ont invité des personnes en situation de handicap, des associations de personnes en situation de handicap et des professionnels du champ du handicap à venir travailler avec eux, à venir tricoter une ou plusieurs solutions pour permettre un élargissement de l'accès à la culture pour ces personnes-là. Donc, le réseau existe depuis 2012 et le groupe a commencé à travailler en 2016 sur cette question spécifique.
Et donc là, vous disiez que parmi les personnes qui ont participé à l'atelier, les personnes de la mairie liées à la culture, etc., mais aussi des personnes handicapées ou des associations qui s'occupent de ça. Pendant l'atelier, vous aviez l'impression que c'était un vrai besoin, cette handibox, de la part des personnes handicapées ou des associations qui travaillent sur ce sujet-là?
Alors oui, je crois que ce qu'on a mis dedans, ça répond à des vrais besoins. En fait, c'est d'ailleurs la façon de travailler. En fait, les gens qui sont autour de la table avaient tous des besoins par rapport à ces situations d'accessibilité. D'un côté, les personnes de la culture qui avaient besoin de savoir ce qu'elles pouvaient faire, parce que c'est pas le tout d'avoir envie de faire. Il faut savoir quoi faire et comment faire et que ce soit pertinent. Et de l'autre côté, des personnes en situation de handicap qui avaient des besoins, qui ne savaient pas forcément comment les exprimer ou plutôt comment elles pouvaient être interprétées en face. Et tout le travail consiste justement à établir un dialogue qui permet de construire ensemble, en fonction des besoins des uns et des autres et des difficultés des uns et des autres, des solutions qui soient pérennes et qui permettent de faire évoluer la situation.
J'imagine qu'au cours de l'atelier, il y a plusieurs idées, plusieurs concepts qui ont été évoqués. Comment la handibox, en tout cas ce projet, a été choisi comme le projet, la chose à instaurer à Brest?
En fait, autour de la table, chacun a dit un petit peu ce qui lui paraissait nécessaire, ce qui manquait, ce qui souhaitait. Et à partir de là, les choses ont bondi. Donc, d'un côté, on disait qu'il fallait quelque chose qui soit assez léger pour que les organisateurs puissent l'utiliser en plus de tout ce qu'ils ont à faire lorsqu'ils organisent un événement, ce qui est en général copieux, qui soit autonome. De l'autre côté, il y avait également ce désir d'autonomie, être le plus autonome possible dans la réponse, pouvoir se rendre sur place, pouvoir faire des choses comme tout le monde, entre guillemets. Donc, en fait, c'est un jeu de dialogue qui a permis d'arriver à cette idée de handibox. On a regardé aussi la réalité des choses. Quand vous avez, quand vous êtes une association, que vous avez un festival par an, deux jours par exemple, c'est un peu compliqué de prévoir, d'avoir tout le matériel nécessaire pour accéder plus facilement. Mmh. Ça demande des budgets qu'on n'a pas forcément. Puis utiliser deux jours par an du matériel, l'avoir en propriété, c'est un petit peu dommage. Donc, il y a un certain nombre de choses comme ça qui sont ressorties. Et puis c'est toute la magie du travail en groupe. Hein. C'est que les idées se télescopent et se bousculent jusqu'à un moment où on dit oh, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Mmh. Et là, ce n'est plus l'idée de l'un ou l'idée de l'autre, c'est l'idée d'un groupe. C'est pour ça que je parle souvent de tricotage. Parce qu'on a tous des fils différents. Et à partir de là, on va tricoter quelque chose qui est un projet de l'ensemble et pas le projet de l'un ou de l'autre.
Mmh. Et est-ce que parmi ce tricotage, justement, il y a eu des fils, pour continuer la métaphore, de personnes qui avaient déjà eu connaissance de projets un peu similaires dans d'autres villes et qui ont pu vous inspirer pour cette handibox?
Un projet similaire, on n'en a pas trouvé, en fait. On a trouvé parfois des prêts de matériel, d'une sorte de matériel, voilà. Et, ou alors on a quand même trouvé beaucoup de littérature, c'est-à-dire de chartes, de fiches communication, etc. On n'a pas trouvé un ensemble comme ça, mais c'est sûr qu'on s'est inspiré, on s'est nourri de tout ce qu'on a pu trouver. Ça c'est clair, parce qu'on n'invente jamais rien, on se contente, mais c'est déjà pas mal, d'interpréter, d'aller plus loin, de tirer des enseignements de ce qui a déjà été fait. Et puis ça permet de donner une chose nouvelle. Mais bien sûr qu'on se nourrit de tout ce qui a pu exister.
Mmh. Mais c'est quand même considéré comme le premier prototype / projet de cette nature.
Oui, c'est considéré comme ça. Je pense que pour l'instant, c'était, en tout cas jusqu'à maintenant, le plus complet en termes de matériel, puisqu'on s'est intéressé à un peu tout type de handicap. Alors bien sûr, il en manque, hein, c'est évident, on n'est pas exhaustif. On a fait, fallait tirer sur un bout. On va reprendre la métaphore du fil. Hein. On a pris la pelote et on a commencé à tirer sur un bout. Et puis les choses, elles viennent naturellement. On commence par un handicap, deux handicaps, trois handicaps. Et puis voilà. Ça avance. Puis les gens le savent. Ils viennent nous en parler. Est-ce que vous avez pensé à tel type de handicap? Voilà. On a pensé à ça. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose, etc., etc. Et c'est comme ça qu'on avance.
Ça, on en parlera juste après. Juste avant de parler de la handibox en elle-même, de son fonctionnement, je me demandais si quelles mesures avait pu prendre la ville de Brest avant ce projet de handibox pour faciliter l'accès à la culture pour les personnes handicapées?
Oh, il y a des choses qui sont faites depuis très longtemps. Il y a des choses. Alors déjà, juste une petite parenthèse, il n'y a pas que la ville de Brest hein, dans le secteur culturel. Il y a plein d'associations également. On a aussi également le Quartz. C'est pas un projet uniquement ville de Brest. Il est porté par la ville, il est animé par la ville, et c'est bien les partenaires territoriaux qui ont travaillé dessus, qui travaillent toujours sur ce secteur-là, dans ce domaine-là. Par exemple, les médiathèques. Hein, les médiathèques ont un très gros fonds documentaire pour les personnes ayant des difficultés de vue, pour les personnes dyslexiques, qui ont également tout un fond sur la culture sourde. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a plein de choses. Vous me posez une colle à brûle pour point, mais c'est vrai que tous les secteurs, enfin tous les services proposent des choses, lors des balades en ville du patrimoine, par exemple, la présence de l'interprète LSF. Mmh. Il y a eu aussi pendant tout un temps, je ne sais plus si elle existe toujours en tout cas, mais il y a eu pendant tout un temps une chorale de personnes malentendantes au conservatoire. Voilà, plein d'actions qu'on ne connaît pas forcément, le grand public ne connaît pas forcément dans le détail, mais déjà beaucoup d'actions qui existaient au sein de la ville, dans les services de la ville et de la métropole, et également au sein des autres secteurs, des autres institutions culturelles.
Et du coup, pour revenir sur concrètement ce que c'est la handibox, de quoi elle est faite? Parce que tout à l'heure, vous disiez que dans la mesure du possible, vous essayez de faire en sorte que ça touche et que ça puisse aider au plus de handicaps possible. Ouais. Mais par exemple, est-ce qu'il y a des handicaps qui sont plus faciles à traiter, à épauler avec la handibox?
Alors, il y a en fait, c'est il y a des alors plus facile, je ne sais pas. Il y a des réponses matérielles qui sont plus simples pour certains types de handicap que pour d'autres. Par exemple, pour des personnes malentendantes, on peut se tourner vers les boucles à induction magnétique. Pour les personnes relevant du spectre autistique, la réponse n'est pas vraiment dans du matériel. Il faut aller sur d'autres champs. Donc voilà, il y a des champs différents surtout. Alors la handibox, en fait, ce sont des boîtes dans lesquelles on va trouver du matériel qui permet de faciliter l'accessibilité et la participation aux offres culturelles. Alors ça va des boucles à induction magnétique pour mieux suivre un concert, une conférence, un des fauteuils roulants, parce que quelquefois quand vous êtes en mobilité réduite, c'est pas forcément un fauteuil roulant, mais être debout tout le temps, par exemple, d'une exposition à l'extérieur, ça peut être très fatigant. Donc, pouvoir avoir un relais par un fauteuil roulant ou par un siège spécifique, ça vous permet peut-être d'aller jusqu'au bout de l'exposition, ce qui est quand même une bonne chose. On a également un chargeur pour fauteuil roulant électrique. Ça arrive qu'un fauteuil roulant électrique tombe en panne. C'est très lourd quand c'est en panne. C'est bien de pouvoir dépanner. On a une bande d'accueil à hauteur pour les personnes à mobilité réduite. Voilà. Bon, je vais pas vous citer tout ce qu'on a dedans. On a quand même un certain nombre de choses. Et on a aussi des guides. On a trois guides. Pour nous, ils sont tout aussi importants que le matériel. On a un guide qui n'est pas un guide des bonnes pratiques ni une charte, qui est vraiment un guide repère en direction des organisateurs pour les aider à se poser des questions, à se dire, parce que, en fait, souvent, ils se disent, mais qu'est-ce que je peux faire? Je ne sais pas ce que je peux faire. Bon, voilà. Donc, on leur propose des choses à faire pour rendre leur événement plus accessible. Ensuite, ils choisissent ce qu'ils veulent. Il y a plusieurs niveaux. Il y a trois niveaux différents pour un peu toutes sortes de handicaps. Donc, ils voient en fonction de leur réalité. On ne commence pas, évidemment, en disant, je vais faire le maximum tout de suite. Bon, il faut être réaliste. On commence par un petit bout. C'est déjà mieux que ce qu'on faisait avant ou quand on ne faisait pas. Et puis, on rajoute un petit bout l'année suivante, etc., etc. On a également des fiches communication adaptées pour les personnes en situation de handicap, qui sont complètement inspirées, là pour le coup, vous me parliez d'inspiration tout à l'heure, qui sont complètement inspirées de ce qui a été fait au Québec, et qui permettent là aussi d'avoir des repères, parce qu'on ne sait pas toujours comment il faut communiquer en fonction du différent type de handicap, et on ne connaît surtout pas toujours les réseaux. Donc voilà, ça permet d'avoir un petit peu des idées. Et enfin, on a un carnet d'adresses territorial qui permet d'avoir le nom de toutes les associations qui travaillent dans le secteur du handicap, plus le nom de quelques personnes qui ont décidé, qui sont prêts à venir s'investir auprès des organisateurs de manifestations culturelles pour les aider dans l'accessibilité, pour rendre accessible leur événement.
Et je me demandais, parce que donc, du coup, quand la... Imaginons qu'il y a un événement culturel à tel endroit, la handibox est amenée sur place. Est-ce que en plus du matériel qu'elle contient, il y a aussi des personnes, je sais pas, 2, 3, 4, 5, selon la taille de l'événement, qui sont là pour, qui sont formées et qui sont là pour accompagner les personnes handicapées pendant l'événement?
Non, alors là, c'est laissé à la charge de l'organisateur. En fait, on mutualise la handibox, c'est-à-dire que les organisateurs viennent la chercher à la mairie. Et là, nous la ramène, mais c'est eux qui l'utilisent. Alors, on a fait des tutoriels, etc., pour qu'ils puissent utiliser le matériel. Mais c'est eux qui s'organisent pour l'utilisation sur place. On peut les conseiller, bien évidemment. On laisse pas les collègues dans la nature comme ça à se débrouiller. On peut accompagner, mais c'est à eux de voir, de prévoir le personnel s'ils en souhaitent. Tout dépend de ce qu'ils vont faire, en fait, parce que c'est une handibox modulable. On peut très bien emprunter qu'une partie du matériel, qu'on a décidé d'utiliser cette année-là.
Et je me demandais, est-ce que en plus de cette handibox, il est prévu des ateliers de sensibilisation pendant les événements culturels en eux-mêmes, mais aussi pour des écoles. Je pense aux écoles notamment parce que c'est souvent là qu'il y a une naissance de l'intérêt pour la culture.
Alors, il y a tout un travail déjà qui est fait autour de la culture et autour du handicap, alors pas forcément en même temps, mais sur les deux champs dans les écoles. Donc, pas par rapport à la handibox, mais franchement, par rapport au handicap et à la culture, il y a déjà beaucoup de choses à être faites. Ensuite, on n'a pas prévu d'atelier spécifique. Ce qui se passe, c'est que souvent, lorsqu'on présente la handibox, on nous demande quand même d'aller un petit peu plus loin. Donc, on fait un peu de formation quand même. On explique un peu plus loin que ça. Et puis les professionnels qui utilisent l'Handibox ou qui s'intéressent tout simplement à ce domaine-là, suivent aussi des formations dans le cadre de la formation professionnelle, la formation continue tout simplement. Ça fait partie des domaines de la formation continue. Donc, on n'a pas à se substituer à ce qui existe par ailleurs. Par contre, on sensibilise, évidemment.
Et pareil, je me demandais, est-ce que dans les choix que fait la Handibox, entre guillemets, c'est-à-dire sur quel événement elle peut couvrir, elle peut accompagner, est-ce qu'il y a un lien avec l'accessibilité de l'événement à la base? Par exemple, est-ce que la Handibox intervient sur un terrain qui est déjà en partie aménagé pour les personnes handicapées, par exemple un endroit où il y a des rampes à la place des escaliers, ou au contraire plutôt sur des terrains où il n'y a aucune initiative inclusive?
Non, ça peut être les deux en fait. Ce qu'on amène surtout les organisateurs à réfléchir au lieu où ils s'implantent, justement en termes d'accessibilité. Parce que plus ça va être compliqué, dès le départ, plus ça sera compliqué à l'arrivée aussi. Parce que la Handibox, elle ne pourra pas rendre plat le terrain. Elle pourra pas, il y a un certain nombre de choses qu'elle ne peut pas faire. Donc, on amène à réfléchir là-dessus. Bien évidemment, trouver plutôt des terrains qui soient adaptés déjà, qui permettent déjà assez facilement l'accès d'un certain nombre de personnes. Ça n'empêche pas qu'il y aura quand même du travail à faire, hein. Mais ce n'est pas la peine d'aller en rajouter, disons.
Et je me demandais, parce que donc, pour l'instant, la Handibox a notamment fonctionné pour les jeudis du port. Est-ce que pendant ces moments-là, il y a seulement une partie du matériel qui a été utilisée, ou est-ce qu'au contraire, il n'y avait pas assez de matériel, ce qui montre que la demande était plutôt forte par rapport à ce qui était prévu à la base?
Alors pour les jeudis du port, on a déployé tout le matériel, c'est-à-dire qu'on a utilisé toute la Handibox, ce qui ne veut pas dire que tout le matériel a été emprunté, mais quand même une bonne partie. Alors, je ne pourrais pas vous donner les chiffres comme ça. Une bonne partie du matériel a été empruntée tout de même. Ce qu'on sait aussi, c'est que c'est normal que tout ne soit pas emprunté tout de suite. D'abord, ce n'est pas parce qu'on prévoit des choses pour l'accessibilité que pour autant tout le monde a envie de venir. Ça fait heureusement partie du choix des personnes de venir ou pas. Ensuite, il y a un effet d'entraînement. C'est-à-dire qu'au début, tant que ce n'est pas très connu, il n'y a pas beaucoup de demandes. Puis quand c'est très connu, il y a beaucoup de demandes. On l'a vu sur un autre plan, par exemple sur les Jeudis du Port, où au départ, le parking des personnes en situation de handicap était en général relativement vide. Et puis, depuis 2-3 ans, il est saturé. Voilà. Quand on commence à mettre les choses en place, eh bien, il y a un effet boule de neige, il y a l'effet bouche à oreille, et les gens viennent. Donc, tout n'a pas été complètement utilisé lors de la dernière fois où on l'a mis en place, pas cette année, l'année d'avant, mais ça ne veut pas dire que dans 2 ans, ce ne sera pas entièrement utilisé.
Et tout à l'heure, du coup, vous parlez du fait d'être connu auprès des personnes handicapées, oui, de tout ce qui est milieu associatif autour. Et justement, comment vous faites pour que les personnes en situation de handicap vous connaissent, sachent qu'il y a un dispositif comme la Handibox qui existe?
Déjà, on le dit, et puis on le met dans la com systématiquement. Et puis justement, dans le groupe de travail, il y a des personnes en situation de handicap, des professionnels du handicap et des associations qui elles-mêmes se font relais des informations. Et donc là, c'est une entrée sur des réseaux qui est très importante. Donc l'information est très vite relayée en fait, et relayée au bon endroit, parce qu'on n'a pas forcément tous les mêmes réseaux de communication. Donc, c'est important d'avoir accès aux réseaux ciblés, et le fait de travailler ensemble, ça permet d'avoir accès à ces réseaux-là.
Là, bon, si on fait l'interview, c'est aussi parce que assez récemment, il y a un mois et demi, vous avez remporté le prix coup de cœur des prix territoriaux 2020 de la Gazette GMF. Oui, qu'est-ce que ça vous fait de savoir que vous avez remporté ce prix-là avec le projet de Handibox?
Honnêtement, ça fait plaisir déjà. Ça fait plaisir. C'est une reconnaissance d'un travail. C'est la reconnaissance de la mise en mouvement de deux secteurs professionnels sur un territoire. Donc deux secteurs, le secteur de la culture et le secteur du handicap, sur le territoire brestois. Moi, je trouve que c'est une superbe récompense. Parce que vraiment, il y a une volonté de tous ces acteurs de travailler ensemble, d'avancer, parce qu'il y a bien sûr la Handibox, mais il y a aussi tout ce qui a découlé de là, hein, le fait d'asseoir les gens autour d'une table, à côté des uns des autres, des gens qui ne se connaissent pas. À partir de là, dès lors qu'on commence à se connaître, on va faire plein d'autres actions. Il y a l'Handibox, mais il y a plein d'autres petites actions qui se sont mises en place et qui sont des vraies actions importantes pour faire évoluer cette situation. Et ça c'est vraiment super. Moi, je suis très fière d'avoir travaillé sur ce projet. Je suis très heureuse qu'on ait gagné ce prix.
Et enfin, dernière question, qu'est-ce que vous prévoyez pour la suite en termes d'évolution? Par exemple, avoir plus de matériel, couvrir plus d'événements ou autre?
Alors, pour l'instant, les événements cette année ont été un peu bloqués. Oui. Hein. Voilà. Donc, déjà, on aimerait pouvoir recommencer à aller sur des événements. Et ensuite, vraiment, on va voir en fonction de l'évolution que ça. Si vous disiez tout à l'heure, est-ce que vous avez assez de matériel? On va voir. Voir aussi en termes de handicap, parce qu'il y a des handicaps qu'on ne couvre pas du tout. Et est-ce qu'on peut développer autre chose, des choses complémentaires pour pouvoir justement répondre aussi à ces besoins. On a pas mal de choses devant nous. On était à 2020 aurait dû être une année d'observation, justement. Voilà. Je pense que ce sera 2021, conclusion.
On va espérer, en tout cas.
J'espère. En tout cas, j'espère que ce sera 2021.
On va espérer aussi. Merci beaucoup, Véronique.
Je vous en prie, Marie.
Et avant de passer à notre prochaine invitée, on écoute Forever Yours de Johnny Carwash. FM dans l'émission C'est vous qui le dites, où on parle encore de la Handibox de Brest. On reçoit Cécile Dulès, qui fait partie du jury des prix territoriaux GMF La Gazette depuis plusieurs années maintenant, dont la Handibox a reçu le prix Coup de cœur fin 2020. Bonjour Cécile.
Bonjour Marie.
Donc comme je le disais, vous faites partie du jury de ces prix et c'est pour cette raison que je me demandais si, en qualité de jury, vous pourriez expliquer en quelques mots en quoi consistent les prix territoriaux La Gazette GMF.
Bien sûr. En fait, c'est une récompense aux équipes des collectivités territoriales sur la valorisation d'un projet. Et ce projet, en fait, a une thématique bien particulière puisque c'est sur l'amélioration du service public.
Et je me demandais, comment est né ce projet?
En fait, ce projet est né il y a maintenant 22 ans. En fait, 21 ans plus précisément, et nous sommes dans la prochaine édition. La prochaine édition sera les 22 ans. En fait, GMF cherchait il y a une vingtaine d'années à mettre en avant le savoir-faire des collectivités et nous avons alors cherché un partenaire média qui aurait pu à l'époque travailler sur ce sujet et en fait la Gazette a répondu présent immédiatement. C'était l'interlocuteur incontournable, hein. C'est toujours l'interlocuteur incontournable du monde territorial et nous avons donc créé ces prix en 2000.
Et concrètement, c'est quoi le but, c'est quoi les objectifs de ce prix?
Mais en fait, c'est la mise en lumière de sujets qui restent bien trop souvent dans l'ombre. La territoriale sait être très discrète sur ce qu'elle met en place. Et c'est l'occasion de partager leur savoir-faire auprès d'autres collectivités. C'est un partage d'expérience.
Donc c'est un concours, il faut déposer une candidature d'une certaine manière, il faut y participer. Comment on fait concrètement? C'est quoi les critères de participation?
Alors en fait, concrètement, pour que les collectivités puissent participer, elles doivent tout simplement se mettre sur le site internet des prix territoriaux Gazette GMF. Toute la démarche est expliquée, le dossier est mis en ligne à partir de la date du 15 mars chaque année pour pouvoir déposer les dossiers. Et les critères de participation sont au nombre de 5 ou 6, nous allons dire, le majeur étant l'innovation, l'amélioration du service public, la multiplicité et la diversité des partenaires et métiers impliqués dans le projet, une évaluation quantitative et qualitative de la démarche, ainsi que l'utilisation des moyens financiers et humains mobilisés, et enfin le caractère reproductible de cette innovation.
Oui, donc ça fait quand même beaucoup de critères de participation, en fait. Ça laisse pas mal de choix.
En fait, on demande aux collectivités de répondre à tous ces critères dans le dossier d'inscription parce qu'en fait, nous recevons chaque année énormément de dossiers et ces critères nous permettent justement de pouvoir mettre en avant les dossiers qui répondent à l'ensemble de ces critères.
Et pour avoir une idée, est-ce que vous avez en tête le nombre de dossiers qui vous parvient chaque année ?
Bien sûr. Alors, 2020 était une année un peu particulière, comme tout le monde le sait. On pense tout de suite à la crise du Covid, mais il ne faut pas oublier que c'était également des élections municipales qui ont été malmenées. Et nous pensions avoir peu de dossiers cette année, et nous avons eu, pour l'année 2020, 63 dossiers exactement. Et 2019, nous en avions eu 134.
Ah oui.
Donc, malgré cette année très particulière entre la crise sanitaire, des élections très très mouvementées, eh bien, nous avons eu quand même plus de 60 dossiers à étudier.
Et donc, du coup, il y a différents prix qui existent, mais forcément, qui dit prix dit un peu compétition, dit choix. Et justement, comment vous faites vos choix? C'est quoi vos critères, vos attentes? Qu'est-ce qui vous permet de décider quelle innovation remportera tel ou tel prix?
Alors, en fait... il y a d'abord, vous imaginez bien que quand on reçoit plus de 60 dossiers, il y a une présélection. Et donc, au moment du jury, nous étudions à peu près une vingtaine de dossiers. Et chaque membre du jury a une grille d'évaluation en amont du jury pour justement pouvoir étudier chacun des dossiers avec la reprise des critères dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc l'innovation, l'amélioration du service public et ainsi de suite. Et en fait, autour de la table, le jury est composé de spécialistes du monde territorial. Donc, ils connaissent tous très, très bien le fonctionnement de la fonction publique territoriale, des collectivités et de toutes les collectivités, de la mairie en passant par le CCAS, en passant par les 10, voilà, avec des critères tous, enfin, pas des critères, mais des fonctionnements tous particuliers. Et donc, au vu de tous ces dossiers, la grille est complétée par ces spécialistes qui connaissent en fait le monde territorial via justement tout ce qui est mis en place. Donc, ils sont susceptibles de répondre et de savoir si c'est innovant, si ça ne l'est pas, si ça améliore le service ou pas. Il y a cette grille d'évaluation qui est assez stricte, on va dire. Puis, au moment du jury, alors ça n'a pas pu se passer en 2020, mais ça se passera à nouveau en 2021. Nous avons le pitch. En fait, nous téléphonons dès la présélection. Nous passons un appel aux 20 présélectionnés et nous leur demandons de nous faire un petit pitch de 2 minutes expliquant leur dossier et nous donnant quelques informations complémentaires éventuellement et pourquoi on voterait pour eux. Et donc, lors du jury, nous passons ces pitchs qui viennent compléter la grille d'évaluation par le jury.
Et donc, pour revenir à, à la Handibox de Brest. Qu'est-ce qui vous a fait choisir ce projet-là pour votre prix coup de cœur? Qu'est-ce qui vous a touché tous pour que vous le choisissiez à l'unanimité?
Bien sûr, alors, je peux d'ores et déjà vous dire que la Handibox a fait un... Alors, a fait plus que l'unanimité du jury, parce qu'en fait, ça a été un vrai cri. Alors là, ça a été, au-delà du coup de cœur, c'était un cri du cœur du jury. Et en fait, la Handibox a été choisie pour sa simplicité sur la mise en œuvre de l'accessibilité aux personnes handicapées par les organisateurs d'événements culturels, par exemple. C'est un sujet souvent oublié et qui méritait d'être mis en avant. La Handibox, en fait, a accueilli l'intégralité des votes du jury parce qu'en fait, il y a quelques années, il y a eu cette loi sur l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. On en a énormément parlé, il y a eu énormément de choses de faites, et à cette époque-là, nous avions eu beaucoup de dossiers. Mais depuis 2-3 ans, ce sont des sujets sur lesquels on reçoit très peu de dossiers, et celui-ci sortait vraiment du lot. Cette simplicité, cette box, comme elle est intitulée, en fait, c'est un kit. C'est vraiment un kit de mise à disposition et que tout le monde peut utiliser. Elle est simple, elle est facile, elle est innovante. Elle rentrait à 100% dans tous nos critères. Et puis, il y avait aussi le cri du cœur. Parce que c'est un sujet qui est souvent difficile à mettre en place. L'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, c'est quelque chose de difficile à mettre en place. Et là, c'est une simplification de la mise en place. C'est vraiment, ce dossier remplit tous les critères des prix territoriaux.
Généralement, qu'est-ce que le prix change dans un projet, dans une initiative? Qu'est-ce qu'il apporte en plus?
Alors en fait, c'est un coup de projecteur qui est mis sur l'équipe qui a travaillé sur le projet. Ça aide bien souvent au développement de nouveaux projets dans la collectivité parce qu'en fait, ils donnent envie. Mais c'est aussi, il le légitimise en fait. Il légitimise le projet mené par les équipes. Il est aussi souvent considéré comme un outil managérial. En fait, c'est la mise en avant des équipes qui ont travaillé sur ce projet. Et c'est aussi la mise en lumière de ce projet auprès d'autres collectivités. Et donc, c'est toute la famille territoriale en fait qui peut bénéficier de ces projets et de la mise en place. En fait, après, il y a souvent une duplication dans d'autres collectivités. Donc, c'est vraiment la mise en lumière des équipes sur ces projets.
Et justement, vous parliez des duplications de ces projets-là dans d'autres lieux. C'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que vous avez des exemples en tête d'initiatives, de projets qui sont liés à un endroit et qui, grâce au prix, se sont développés et ont pu exister dans d'autres endroits en France?
Là, comme ça, je suis en train de chercher. Il y a quelques années, oui, il y a bien des années même, nous avions remis un prix à un défi qui s'appelait Léon. Léon est un... C'est le cri du pan. Et en fait, une collectivité avait des pans autour de la mairie. Et donc, la mairie s'est dit, tiens, c'est bizarre, quand il appelle, il dit Léon. Donc, en fait, le dossier s'est appelé comme ça. Et c'est devenu un dossier, en fait, d'appel de la population sur les services techniques. En fait, la population avait un numéro direct pour appeler les services techniques, pour informer la collectivité, la mairie, qu'il y avait un souci sur la ville. Alors, un trou dans une route, un luminaire qui fonctionne plus, un feu rouge qui ne fonctionne plus. Vous voyez, en fait, des petites choses. Mais aujourd'hui, ces dossiers-là, on les voit un petit peu partout en France fleurir. Moi, j'habite dans une collectivité qui est très très loin de celle qui avait été primée et qui a mis en place la même chose. Ce dossier, Léon, a été primé il y a quasiment une dizaine d'années maintenant et il a fait des émules puisque d'autres collectivités ont mis ce type de projet dans leur collectivité.
Oui, donc c'est un vrai coup de projecteur sur ces projets-là, quoi.
ce coup de projecteur, en fait, est mis en place par la Gazette, puisqu'en fait, au sein de la Gazette, il y a ce que l'on appelle un 8 pages qui est consacré. Donc, il va sortir d'ici quelques semaines, consacré aux 6 dossiers qui ont été primés, avec un article sur le dossier, sur le projet, et ce qui permet en fait à l'ensemble des collectivités de pouvoir être informées de ce qui est fait et de pouvoir en fait prendre contact avec les collectivités qui ont mis en place ce projet et pouvoir échanger avec elles et le mettre à leur tour en place dans leur collectivité.
Et enfin, dernière question, parce que vous, ça fait quand même un certain temps que vous faites partie du jury, est-ce que au cours des différentes années, vous remarquez qu'il y a des types d'innovations qui reviennent plus que d'autres, sur des thématiques précises, par exemple?
Oui. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a quelques années, quand la loi est passée sur l'accessibilité des personnes à mobilité réduite est passée, nous avons eu beaucoup sur ce sujet. Il y a une dizaine d'années, nous avions beaucoup de projets sur tout ce qui était développement durable, par exemple. Et souvent, les thématiques, en fait, les projets reviennent selon ce qui se passe, alors que ce soit au niveau des lois, d'un décret, d'une nouveauté, d'une obligation. Bon, alors cette année, enfin 2020, malheureusement, nous avons eu beaucoup de dossiers sur la crise, mais en fait, c'est un moment primordial dans la vie des collectivités et les projets naissent de ces moments primordiaux dans les villes, dans les départements, dans les régions. C'est leur quotidien qui fait naître ces projets et souvent le quotidien d'une collectivité peut être identique sur toute la France et donc nous avons l'émergence de certains projets. Donc développement durable, handicap, nous avons aussi politique de la ville, nous avons voilà. Donc en fait c'est selon le moment de vie des collectivités.
Ouais, donc très très lié à l'actualité.
Oui, beaucoup.
Bah, merci beaucoup Cécile.
Mais je vous en prie Marie.
Et avant de recevoir notre dernière invitée, on écoute Ken Twain. The Machine Room.
Slow, I move the dog food, nigga. This is young Coleone, soprano, baby Tony. Straight out that east side, my breakfast was eggs and fried bologna. Can't politic if you neutral, I fuck with members only. I pulled up that face with choppers, bitch, I ain't sending home. Fuck niggas get sprayed down, yellow tape and stretcher getting laid down. Call my niggas black and get some paid round. Yo, this been my niggas since the playground. Yo, this been my niggas since the sandbox. Bar in the turf, I got the landlock. Put it in the pot and make the grand block. We was out here serving, had the hand rocks, nigga. Can't train, came out of trap, if I fall off, I can do the same thing. Rap game. All over these magazines, I can't slang things. Insane, bunny rabbit game, throw it down for the set. VVs, when you see me, or these double G's, got my neck wet. And my money rolling, do not fold. Got a roadie date, told us all go. Bought a tip with pop blows, chop foes. I don't got a minute, but it all goes. Bitch, I never been, I do not fold. Things on the Chevy, they was all go. Bought a tip with pop blows, chop foes. I ain't got a minute, but it all goes. Nigga. Yeah.
Radio U, dans l'émission C'est vous qui le dites, et on parle toujours de la Handibox de Brest.
On le disait tout à l'heure, dans l'atelier à l'origine de la Handibox, il y avait notre invitée Véronique Abaléa, mais il y avait également d'autres personnes, dont Arnaud Ledin, malvoyant, qui a donc pu participer à la conception de ce projet. Bonjour Arnaud.
Bonjour.
Donc Arnaud, vous êtes le président de l'association Valentin AUI du Finistère, qui offre un soutien aux personnes malvoyantes et non-voyantes. Est-ce que, avant tout, vous pourriez nous présenter en quelques mots les objectifs de votre association?
Oui, alors, donc, l'association Valentin AUI
Alors déjà, c'est une des plus vieilles associations de France qui a été créée en 1889, voilà, par Maurice de la Sirane, et qui a été reconnue en 1891. Donc voilà. Et donc elle a été créée pour apporter l'aide aux personnes donc non et malvoyantes, pour se développer dans leur vie quotidienne. Donc, les trois grands principes, en fait, de beaucoup de l'association, c'est de l'amener le plus d'autonomie possible aux personnes. Donc, ça veut dire qu'il y a un service AVS avec donc de la locomotion, voilà, pour de l'AVGIS, des centres de rééducation pour les personnes qui perdent la vue, pour leur redonner de l'autonomie, si voilà, s'ils ont besoin. Donc il y a de la lecture, il y a un grand projet de lecture. On a une médiathèque numérique à l'association, donc au siège national, qui est là avec au moins 40 000 ouvrages, donc soit on peut les télécharger, soit on peut les avoir par CD, enfin il y a différentes modes pour les avoir selon comment on se débrouille aussi sur internet ou pas. Donc après il y a tout ce qui est aussi culture, pour ouvrir la culture aux personnes déficientes visuelles. Donc après, nous ici en local, donc les comités locaux, on essaye, par exemple comme nous, on a travaillé notamment avec donc Véronique pour la culture, pour ouvrir le plus possible la culture et travailler avec les différentes personnes de la culture pour eux, pour leur donner aussi qu'ils soient à l'aise avec les non et malvoyants, et pour amener aussi les non et malvoyants par la suite vers eux. Donc voilà.
Et donc vous venez de le dire, vous avez participé à l'atelier dans lequel a été conceptualisée la Handibox. Vous étiez content, si je puis dire, de pouvoir y participer et de donner un avis plus pratique, on va dire, de par le fait que vous êtes malvoyant et que vous présidez l'association Valentin AEUI du Finistère.
Oui, j'étais... on a dû vous le dire, c'était venu d'une réflexion, comment les personnes, parce que c'était surtout sur par rapport aux manifestations extérieures, qui est venue la Handibox en premier, donc... forcément, tout corps d'handicap, on va dire, comme ça, pu donner son mot, donc j'étais content d'être là pour la déficience visuelle et pour donner mon point de vue et comment un déficient visuel, qu'est-ce qu'il a besoin et jusqu'à où ça va. Ouais.
Et justement, c'est quoi votre ressenti sur la parole qui est donnée ou non aux personnes handicapées, là je parle de tous les handicaps, quand il s'agit de projets en leur faveur? C'est-à-dire, est-ce que vous trouvez que vous êtes assez inclus ou au contraire pas assez?
Maintenant, c'est vrai que dans les mairies, donc là, pour celui-là, forcément, c'était... nous, notre parole, hein. Donc là on était vraiment très très au fait de ce montage de la Handibox. Ça manque un peu, mais après ça s'améliore sur les projets qu'il peut avoir, que ce soit les projets urbains, là sur les lignes de tram et tout ça qui a été fait. Il demande quand même beaucoup, il y a eu beaucoup l'avis quand même des handicaps pour mettre les stations aux normes, pour donc il y a quand même de plus en plus quand même quand il y a des projets que ça soit urbain, sur la ville, sur surtout où on demande quand même l'avis de la maison de l'handicap, quoi, des différents handicaps. On a quand même de plus en plus la parole. Après, voilà. Après, il y a toujours quand même des petites choses qui sont faites sans notre avis. Et c'est une fois qu'ils sont faits qu'on découvre qu'en fin de compte, on vient de nous demander notre avis. Et puis, forcément, on est obligé de dire que. On va pas dire que c'est bien si c'est pas bien fait. Donc. Mais c'est vrai que de plus en plus, on demande quand même en amont. Mais il y a encore un petit effort à faire.
Bon, ouais, un petit effort, mais on est quand même en voie de progression, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Voilà. Oui. Ça progresse encore, si on parle après des mises aux normes des sites, si on parle internet, mais même si on parle en urbain, si vous parlez des habitations accessibles et tout ça, qui devait être en 2015, ça repousse. Donc maintenant, il y a encore beaucoup de retard, mais après on a quand même plus de la parole qu'avant, et on l'a quand même de plus en plus sur ici. Je vois que à Brest, sur plein de projets, on a eu des appels sur le mobilier urbain au Capucin et autres. On a souvent quand même des appels pour faire attention à l'handicap, demander qu'est-ce qui est bien pour vous, pour le plus de protection possible et d'accessibilité.
Ouais, donc quand même en bonne voie. Et pour revenir sur le processus de création de l'Handibox, est-ce qu'il y a des choses que vous avez pu souligner en tant que personne handicapée, que les personnes valides n'avaient pas du tout en tête? Est-ce que vous avez des exemples?
Ça c'est sûr que j'ai souligné des choses, mais non, des exemples. Par exemple, un exemple. Donc c'est vrai que pour une personne handicapée, sur un festival, s'il arrive, donc c'est beaucoup de repères sonores. Au sol, il va pas savoir. Donc par exemple, on avait des balises vocales que nous on peut déclencher avec une télécommande universelle, en fait, pour donc qui serait placée au chalet d'accueil spécifique pour nous. Et par exemple, de là, eux avaient imaginé peut-être une bande tactile, une bande de guidage qui irait dans la foule et tout ça. Mais par exemple, j'ai dit non, pour nous c'est pas ça, c'est on va jusqu'au chalet, donc là il y a du monde, et après par contre c'est de l'aide humaine pour nous. Voilà un exemple, parce que c'est pas possible de mettre une bande en plein milieu de la foule comme ça avec tout le monde. On pourrait pas le faire, voilà.
Oui, puis j'imagine que si c'est un festival de musique, en plus, avec la musique qui prend déjà beaucoup d'espace sonore, les balises, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus...
Oui, c'est ça. La balise, elle serait placée de façon au chalet, mais oui, pas dans l'espace du festival. Hein. Elle serait à l'extérieur, quoi. Elle est au chalet d'accueil, juste handicap. Et déjà c'est ça, il n'y aurait pas de balise dans le festival, parce que c'est vrai que, comme vous dites, musique, tout ça, donc on n'entendrait pas. Même déjà des festivals où il n'y a pas de musique, c'est difficile, hein, quand il y a la foule, on avait pensé, on avait parlé de ça au festival Brest, les fêtes maritimes de Brest, à mettre des balises ici ou là, donc un peu séparées quand même, mais pour prendre des points de repère. Mais c'est vrai que s'il y a plein de monde, ça peut être pas toujours évident, mais Et sur certains points, quand même, on avait pensé à mettre des balises. Quand il n'y a pas de, trop de musique, tout ça, on peut essayer de repérer quand même. Mais, ouais. Mais voilà un point sur lequel eux avaient imaginé que, une fois les informations, on prenait la bande et puis, ben non, oui, mais ça, c'est pas possible. On peut pas y aller tout seul comme ça dans un festival avec plein de monde autour. Donc c'est de l'aide humaine après pour nous.
Oui, c'est parfois plus compliqué de se rendre compte en tant que personne valide de ce qui peut fonctionner ou pas.
Oui, 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 ben, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut. C'est pour ça qu'on. C'est à nous aussi en tant qu'association d'aller vers eux. Pas que attendre du monde valide, comme on peut dire, ou voilà, même si on est intégré dedans, on est inclus dedans, mais d'attendre aussi les autres, c'est aussi à nous, association, d'aller vers eux. Donc on travaille avec la mairie pour ou les entreprises qui mettent en place, ou pour les sensibiliser aussi à chaque corps d'handicap et les sensibiliser là-dessus. Oui. C'est aussi à nous de leur apporter notre soutien. Et donc là, c'était un exemple. Ah oui, eux, c'est vrai que sur ce coup-là, ils ne s'imaginaient pas. Mais ce n'est pas quelque chose qui est réalisable. On ne peut pas aller dans une foule comme ça, rien qu'avec du repère tactile, par exemple. Ce n'est pas possible de se lancer dans une foule, par exemple.
Et justement, là, donc, le projet de Handibox est terminé. Handibox a déjà été utilisé sur quelques événements, notamment les Jeudis du Port. Est-ce que là, sur l'objet final, en tout cas aujourd'hui, vous avez l'impression que c'est assez complet en termes de matériel, en termes d'aide, de support pour les personnes mâles et non-voyantes?
Alors, moi, j'ai eu l'expérience. Alors, bon, après, on a mis les balises aussi sonores donc à l'accueil. Voilà. Donc, arrivé à l'accueil. Mais après, il faut aussi une façon que l'édifice soit visuel. De toute façon, il arrive déjà tout seul à l'accueil. Et franchement, dans la réalité, il n'y a pas beaucoup de déficients visuels qui va se lancer tout seul à aller à un festival, quoi. C'est vrai que... Mais sur ce qu'on a pu constater, moi j'étais avec une personne valide, donc là après j'étais accompagné, donc il n'y avait pas de souci. Mais bon, sur ce qu'on a pu se constater, il y a ce qu'il faut, avec la balise, et après il y a les documents sonores, je crois, pour expliquer un peu le programme. Souvent, donc on a le programme en braille, voilà. Mais ça, après, c'est aux organisateurs s'ils veulent le faire ou pas aussi.
Et du coup, qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui vous a parlé, qui vous parle encore aujourd'hui dans ce projet de Handibox?
Ce qui me parle, c'est que il y a eu déjà la volonté, parce que de toute façon l'handicap est là, donc il y aura toujours une limite quand même pour moi, comme je vous l'ai dit, un non-voyant, se lancer dans une foule, de toute façon c'est pas évident quand il est seul, hein, voilà. Donc il y aura toujours des limites, mais par contre, ce qu'il y a sur ce projet, c'est que ce qui est bien, c'est qu'on nous a demandé notre avis et un minimum, parce que malgré tout, on doit pouvoir le faire tout seul. On essaye de mettre en œuvre pour que le déficient visuel, il puisse aller tout seul. Et on doit pouvoir le faire aussi tout seul. Ouais.
Et est-ce que vous-même, vous avez déjà été confronté à l'inaccessibilité liée à des événements culturels de par la nature, on va dire, validiste de la société actuelle? Est-ce que vous avez des exemples?
là comme ça, non, j'ai pas trop d'exemples. Parce que j'ai été souvent accompagné. Ben c'est ce que je disais, dans un festival, je me suis jamais lancé tout seul, donc voilà. Donc j'avais quand même toujours le soutien, j'étais tout le temps avec des valides, hein, donc non, j'arrive pas à avoir d'exemples qui m'ont posé des barrières sur l'accessibilité. Ben après, forcément, il y a les barrières de l'handicap qui sont là, voilà, mais...
Oui, après, est-ce qu'on ne peut pas dire que le fait que vous soyez obligé, entre guillemets, d'être accompagné d'une personne valide, c'est une forme d'inaccessibilité en soi ?
Oui, c'est ça, ouais. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, voilà, c'est ça. C'est pour ça que le projet de l'Handibox était très bien et que moi je le soutenais parce que la personne déficiente visuelle doit pouvoir aussi, comme les autres, aller tout seul à ce festival et réussir son chemin et l'accessibilité du site, ouais, du parcours. Donc oui, c'est pour ça que c'est important comme projet.
Ben écoutez, merci beaucoup Arnaud pour votre retour.
Ouais, ben, de rien.
C'était donc Véronique Abaléa et Arnaud Ledin, tous les deux participants de l'atelier de réflexion qui a permis la création de la Handibox, et Cécile Dula, qui a fait partie du jury des prix territoriaux La Gazette GMS, qui a attribué le prix Coup de cœur à la Handibox de Brest. C'est vous qui le dites, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur le site de Radio U. Et je vous laisse maintenant avec la chronique radiophonique L'économie autrement, qui va à la rencontre de personnes qui construisent l'économie de demain, en partenariat avec la CEIS, la saison des expérimentations et innovations solidaires, organisée par Ascoria, une école des métiers du social. En 2004, des parents d'enfants autistes se sont rassemblés pour faire entendre leur voix. L'ABA Ille-et-Vilaine s'est fondée pour informer et aider des parents déboussolés par l'incompréhension suscitée par l'autisme. Une quinzaine d'années plus tard, le constat n'a pas changé, et l'ABA continue d'œuvrer pour faciliter l'intégration des personnes autistes de la société, notamment par des séances de sport. Dans le sud de Rennes, au cœur d'une ancienne école, se tient une de ces séances.
L'économie autrement, le rendez-vous quotidien de l'économie sociale et solidaire en Bretagne.
On fait les raquettes.
Oui.
C'est parti.
Donc, on va.
T'es prêt?
Oui.
On fait doucement?
Oui.
Comme Étienne, doucement. À toi. Ah, je m'en doutais que ça allait pas être
difficile.
Ah,
j'ai tardi.
Viens avec moi. Viens près de moi. Ah, c'est bien, c'est toi qui fais.
Non.
C'est bien, ça y
est.
Vas-y, tiens, prends le ballon.
Tu dois te concentrer.
Oui.
Mais tu sais pas comme ça, c'était dit. C'était dit, ferme. Toi, tu tapes tout doucement et moi, je tape très fort.
Moi, je tape doucement et toi, tu tapes doucement aussi.
Alors, je m'appelle Étienne Maudet, je suis enseignant en activité physique adaptée et j'interviens auprès de personnes autistes dans le cadre de mon activité. Alors, c'est Abderrahman, il a 5 ans et donc j'ai été contacté par ses parents pour faire des séances d'activité physique. Étant donné qu'il n'est pas en mesure encore d'intégrer un club sportif classique, bah, l'idée c'était de l'entraîner sur ces compétences-là pour par la suite être inclus en club sportif classique ou en cours de PS, là aussi classique.
Ok, bien. Ça va ? Le dernier tir ? Et après on ramasse. Très bien. On ramasse les plots et trottinette.
Donc c'est moi qui ramasse les plots maintenant.
Ouais, c'est bien. Tu ramasses très bien.
Et tous les plots.
Merci Abdelrahman.
Tu vas les ranger.
Tu vas les ranger.
On peut les ranger
dans le sac.
On voit aussi que c'est sportif pour vous, c'est intense physiquement d'être à l'écoute toujours de ses besoins.
Alors c'est exigeant, c'est forcément, ça demande de préparer en amont et aussi d'anticiper les éléments perturbateurs des séances, voilà, tout ce qui peut nuire un peu à l'attention du pratiquant. Mais et puis c'est super important, oui, de pratiquer avec, parce que ben, pour lui, je suis rien qu'un compagnon.